Crío Cuervos.
Crío Cuervos.
Crío Cuervos.
Crío Cuervos. Crío Cuervos se veut un espace pour rendre visible ce que l'on cache dans les institutions du pouvoir et au plus profond de nous. Ce qui nous fait peur et nous fait obéir. Un témoignage de nos tristesses, de nos joies, de nos défaites et de nos victoires. Une expression de la douleur qui nous fait sentir vivants ou qui nous crève. Un peu de la pétarade euphorique qui nous fait exister. Un lieu pour détruire tout ce béton et ces barbelés qui enserrent nos têtes. Un temps pour échanger des savoirs et des expériences, pour se réarmer et vivre selon nos désirs. Un temps pour parler comme on l'entend, en se contrefoutant des codes policés de l'expression raisonnable, un espace où les fêlés du casque ont libre antenne, un lien vers la révolte. Crío Cuervos se prétend être un outil de résistance au pouvoir psy, un élan vers des pratiques collectives, dans un processus de libération de la psychiatrie. Nuestra pasión no es diagnosticable. Notre passion n'est pas diagnosticable.
Eh bien, bonsoir à tous ce soir. Alors ce soir, on a décidé de parler ensemble d'un journal qui s'appelle Marche, qui est des années 74. On va vous parler un petit peu tout ça aujourd'hui, du groupe de gens que compose, qui écrivent dans ce journal et écrivent des belles choses, on vous en parlera. Donc du coup, aujourd'hui, au sommaire, une petite introduction de ce qu'il en est de nos choix de pourquoi Marge, pourquoi on a choisi de vous parler ça tous ensemble. Ensuite, on laissera un petit peu la parole à un invité ce soir qui nous parlera de Sans Remède, une revue où les psychiatrisés ont enfin la parole, et sur la sortie du numéro 4. Ensuite, une petite présentation de ce que c'est que Marge, avec une petite historique et resituée un petit peu dans le contexte de l'époque. Un petit panorama de toutes les revues qui sont sorties, avec les thèmes et peut-être un peu les orientations de chaque journal. Ensuite, une petite réflexion autour de ce qu'on peut dénommer l'autonomie désirante. Comment on peut penser à ça aujourd'hui et se réapproprier ce questionnement? Un petit passage sur la charte des internés qui est dans les journaux. Et on finira par un joli conte de Noël, un bel article de Marge qui nous a donné envie de parler de cette belle fête commerciale qui arrive.
Alors pour commencer un peu, pour dire pourquoi nous on aime bien Marge, voilà, en tout cas moi la première chose que je voulais dire, c'est parce que c'est un groupe de gens, parce qu'ils faisaient un journal et que surtout la meilleure chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont quand même dynamisé pas mal la lutte à cette époque-là. Il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas très présentes à cette lutte-là, qui étaient très sclérosées, et je crois qu'eux, ils sont arrivés à poser certaines questions qui s'étaient un peu oubliées exprès par les dominants. Quand je veux dire des dominants, c'est les dominants dans les milieux révolutionnaires, et eux, ils sont arrivés à oser les faire. Et bien évidemment, les gens, ils l'ont catégorisé comme, je sais pas, avec tous les noms que vous pouvez imaginer, tous les adjectifs. C'était des méchants, des réactionnaires et tout ce que vous voulez. Alors j'ai trouvé que c'était intéressant surtout pour ça, parce qu'ils sont dynamisés.
Ouais, ouais, moi, en plus de tout ça, moi ce qui me plaît dans Marche, c'est que ça me semble tout à fait transposable aujourd'hui, comme dynamique et comme modalité. Et c'est un peu une envie de Marge au troisième millénaire, dans le sens où un journal comme ça, avec une émulation pareille et un peu envie de désinguer tous les cadres, c'est hyper porteur. Et du coup, moi, je veux juste dire comment j'ai rencontré Marge. J'ai rencontré Marge à travers un bout d'article dans un bouquin de Jean-Luc Lesage-Delaye qui s'appelle « La mort de l'asile », où il évoquait ces années-là, puisqu'il en était partie prenante. Et après, on a eu la chance, en avril, là, à Paris, de rencontrer Gérald Dittmar, qui était aussi un pilier de Marge. Et du coup, en janvier, on prévoit de vous passer des extraits d'un entretien, voilà, avec lui. Ouais.
Durant une deuxième émission des Marges, alors.
Ouais, exactement.
Du coup, pourquoi Marge aussi ? Bah, peut-être pas tous les questionnements qu'ils ont eus en lien avec notre émission sur qu'est-ce que c'est que la maladie mentale, comment on l'articule à la politique et à ce qu'on fait des gens aujourd'hui étiquetés malades mentaux, et tout le rapport à l'institution du pouvoir et la carcéralité de la psychiatrie et tout leur positionnement par rapport à ça. Et puis aussi cette émulation de tous ces petits groupes qui peuvent questionner le rapport à la marge, les femmes, les homosexuels, les marginaux délinquants, en quoi c'est intéressant aussi de se réapproprier la notion de marge et comment on est opprimé.
Bah ouais, que dire de plus, marge, c'est moi, c'est quelque chose qui me parle et qui me touche, surtout parce que c'est un journal qui vient des années 70 et qui essaye de faire re-rentrer sur le terrain de la lutte sociale, des gens qui en avaient été exclus par les raisonnements politiques et les partis syndicats de l'époque, à savoir les gens qui étaient dans des positions de reclus, donc des marginaux. C'est pour ça que ce journal s'appelle Marge. Et de faire re-rentrer sur le terrain de la lutte, en tout cas, essayer de se constituer comme sujet révolutionnaire quand on est tox, quand on est genre une femme, quand on est homosexuel, quand on est tolard, enfin, toutes ces positions psychiatrisées. Ces positions qui sont dans le monde social, et c'est encore le cas aujourd'hui, des gens qui sont littéralement écrasés et qui n'ont pas de voix au chapitre. Marge, essayez de donner la place à ça, essayez de dire que la perspective révolutionnaire dans ce monde doit passer aussi, et peut-être surtout pour eux en tout cas, par l'expression de ces gens qui sont des reclus et qui vivent le plus fort, disons, l'exploitation, le pouvoir. Donc voilà, il me semble que le projet de Marge, c'était de donner une parole forte à ça.
Bien dit. Là-dessus, un petit rail de son. Si ça marche. Tic, 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 tic.
Alors, vous venez d'écouter Cisma, c'est avec son premier morceau qui s'appelle Cisma, en français ça veut dire schisme, et comme on est en train de parler des marges, des marginaux et tout ça, mais ça tombe bien, vous aurez l'opportunité d'écouter un de ces morceaux après, c'est bien.
Bah écoutez, moi je vais essayer de vous causer 5 minutes du journal Sans Remède, qui a son 4e numéro. Je vais essayer de vous présenter un peu ce numéro, mais avant ça, je voulais faire un petit... un bref point sur quelque chose qui vient de se passer à Toulouse ces 3 derniers jours. Il y a eu un procès à la cour d'assises de Toulouse de 2 personnes. Je vais vous parler surtout de Philippe, une des personnes qui était accusée. Quelqu'un qui vient de faire 23 ans de prison, qui a encore 10 ans de conditionnel à faire, qui était extrait pour être jugé pour une affaire. Voilà, cette personne, quoi qu'il devait arriver à la fin du procès, doit encore faire ses 10 ans de prison. Le tribunal vient de le condamner aujourd'hui à 20 ans de prison supplémentaire. Cette peine, il commencera à la faire dans 10 ans. Voilà, en fait, le tribunal vient aujourd'hui d'assassiner littéralement quelqu'un, à la prononcer une peine d'élimination, comme le procureur l'a lui-même dit, une élimination sociale. C'est scandaleux, révoltant, c'est un monde de merde. C'est sans remède. Voilà, je vais vous, du coup, sans transition, essayer de vous présenter le journal numéro 4 de Sans Remède. Voilà, c'est pas facile, je vais essayer de vous expliquer. On s'est réunis avec une équipe qui a un petit peu grandi pour le dernier numéro. On a, voilà, maintenant on est, ils ont une petite dizaine pour faire ce journal. On a essayé dans ce numéro, comme d'habitude, d'essayer de faire place à des témoignages de gens qui ont vécu l'hospitalisation, la psychiatrie, de l'intérieur, de l'extérieur. Il y a des paroles de proches, il y a des paroles de gens qui ont été internés. Et on a essayé de rajouter à ça des articles un petit peu, disons, d'analyse, pour pas dire trop lourd, c'est à peu près ça. Donc je vais essayer de vous, je vais vous décrire le sommaire un petit peu. Donc il y a un article qui s'appelle « Visite en neurolepsie », qui est le témoignage d'un proche, qui va voir quelqu'un qui connaît à l'hôpital psychiatrique, qui est interné depuis 15 ans. C'est une histoire lourde, très dure. C'est un putain de témoignage. C'est bon, bah, je vais pas vous dire autre chose que c'est en fait un peu à pleurer, mais c'est magnifique ce texte. À la suite de ça, il y a un article qui s'appelle « Les mécanismes de la fabrique du patient », qui est en fait une continuité d'une thématique qu'on essaye de tenir un petit peu dans le journal, de savoir comment on devient patient, et d'essayer de mettre un petit peu de sens sur ce terme de pré-patience, de comment on est fabriqué dans notre histoire, dans notre monde, à devenir patient quand on arrive dans une institution médicale, pas que psychiatrique d'ailleurs. Donc voilà, c'est un article qui raconte un petit peu ça, avec aussi des bribes de témoignages dedans, parce que la personne qui a écrit ça l'a vécu, et du coup elle explique aussi par son vécu comment tout ça s'actualise quand on est dans une institution psychiatrique. Après il y a une rubrique qui reviendra dans les prochains numéros, qui était dans le dernier, qui s'appelle « La psychiatrie en chantant ». Voilà, on met un texte et on explique pourquoi on l'a mis. Là, pour le coup, c'est un texte de Serge Reggiani qui s'appelle « Villejuif », qui est assez hallucinant. Enfin, de la part de Serge Reggiani, moi j'étais surpris d'entendre ça. C'est très beau. Ensuite, on a des courriers qu'on a reçus, je vais pas vous les détailler. Il y en a un qui s'appelle « Je suis une personne qui a dérangé » et un autre qui s'appelle « L'injection est prête ». C'est des témoignages de gens qui ont été internés, qui racontent leur histoire. Ensuite, on a un dossier qui s'appelle « À des fins politiques ». Donc voilà, là on a voulu faire un truc un petit peu plus voilà, pour essayer de rappeler encore une fois et peut-être de manière plus forte encore que la psychiatrie c'est toujours, ça a toujours été, ça sera toujours un outil politique de ce monde. Et donc il y a un article, le dossier commence par un article qui s'appelle « L'administration du soin de l'asile au secteur » et qui essaye un petit peu de revenir sur le fondement de la psychiatrie, le début de l'aliénisme et la place que la psychiatrie s'est toujours faite aux côtés des tribunaux. Et comment elle a réussi à gagner ses galons de science sûre et acceptable dans ce monde. Elle les a gagnés aux côtés des tribunaux, c'est comme ça qu'elle a réussi à devenir une vraie science. Donc voilà, cet article raconte un petit peu ça. Suite à ça, on a un témoignage d'une personne militante qui s'est fait interner plutôt que... Enfin, qui est passée par la case directement HP plutôt que d'aller en garde à vue, c'est assez signifiant ce truc. On a des brèves ensuite qui reviennent sur quelques articles de bref, je ne vais pas vous en faire l'état maintenant. Ensuite on revient, on essaye de faire ça depuis le dernier numéro, sur un petit bout d'histoire de résistance à la psychiatrie. La dernière fois justement c'était le journal Marge, ce coup-ci c'est donc retour sur le SPK. Le SPK c'était un collectif de patients socialistes allemands, et c'était des marxistes orthodoxes pratiquants. C'est assez rigolo comme, enfin c'est rigolo.
Ça va faire une transition avec le sujet.
C'est voilà, du coup pour expliquer un petit peu, parce que leur disons que leurs textes sont assez durs à lire parce que c'est quand même de l'exégèse marxiste un peu compliqué. On a mis un texte de Sartre qui avait fait la préface de leur livre qui s'appelle « Faire de la maladie une arme ». Donc il y a le texte de Sartre qui explique, qui est pas mal. Et ensuite il y a un texte du SPK qui s'appelle « 11 fois la maladie ». Ensuite on a deux textes qui s'appellent « La réponse pour les fous ».
Moi, ce qui me questionne du coup, c'est ça donne super envie. Et quand est-ce qu'on va pouvoir le lire ?
Alors, le Sans Remède 4 va être... là, il est parti à l'imprimerie. Ouais. Il sera imprimé d'ici une semaine.
On en a un sous les yeux.
Une semaine ou deux. voilà, et on va essayer de le mettre un peu en librairie et dans quelques infokiosques. Donc, il sera captable dans les endroits habituels. Et il sera en ligne sur Internet normalement. D'ici une petite semaine, il sera téléchargeable sur le site de Sans Remède, donc sansremède.fr. Et pour finir sur le journal, on a Retour sur des rencontres qui raconte un petit peu ce qui s'est passé à Laborie et Marivieille. Des rencontres sur la psychiatrie qui ont eu lieu. Et une dernière rubrique, l'avant-dernière rubrique, qui s'appelle On a lu, qui fait un parallèle avec, s'appelle Parole de retenue. C'est une brochure qui est parue sur les retenues en centre de rétention administrative et qui parle de la place des médicaments psychiatriques dans les centres de rétention administrative. On en a un autre contre les implants auditifs qui est une brochure aussi assez intéressante qui parle de la médicalisation des sourds. Et pour finir, il y a une page de jeu, ça s'appelle « C'est pour votre bien », des charades et des rébus.
Waouh, quel contenu. En plus, on voit 40 pages là, c'est vraiment expressif.
Ah ouais, c'est du costaud, hein, ouais. C'est douloureux, on
dirait. Ça bouge, ça bouge. Du coup, pourquoi Marge? Et alors Marge, c'est dans quel contexte? Marge se présente à peu près dans les années 77 en Italie. Il y a déjà tout un groupe de mouvements. Alors j'ai à côté de moi quelqu'un qui semble s'être beaucoup plus documenté et intéressé. Donc n'hésite pas à me couper si je dis des trucs.
Merci. C'était pas moi, hein.
C'est 74 Marge.
C'est 74 Marge, mais je voulais situer aussi qu'il y a en Europe, enfin surtout en Italie, déjà une mouvance autonome qui questionne le thème d'autonomie désirante et créative, qui privilégie des luttes un peu en dehors d'une stricte critique du système économique, mais il y a aussi tous les cercles féministes, ce qu'on appellera les Indiens, enfin les gens qui se revendiqueront des Indiens métropolitains. Et aussi ce qu'on peut appeler les transversalistes. Alors je vous laisse aller chercher un petit peu tous ces mots-là, mais en tout cas, c'est toute cette logique d'autonomie désirante qui s'organise en petits groupes sur des bases pratiques et qui lutte sur le terrain de la culture et de la révolution dans la vie quotidienne, pas seulement dans d'autres questionnements. Elle est très implantée, elle est peu implantée en milieu ouvrier, mais il y a pas mal d'étudiants, de chômeurs. Donc en France, le groupe Marge est né exactement en 74 et il va s'emparer de cette étiquette entre guillemets de désirant et questionner vraiment plus particulièrement la question du désir de l'individu. Il y a tout un tas de gens de Marge qui se regroupent et qui viennent de différents univers, je le disais tout à l'heure. Il y a eu une tentative de regroupement dans la Flamme, qui est la Fédération des luttes et actions marginales. Dedans, il y avait le comité de lutte des handicapés, le comité d'action des prisonniers, le front homosexuel d'action révolutionnaire, le mouvement de libération des femmes, le comité unitaire français immigré, les cahiers pour la folie, l'association pour l'étude et la rédaction des livres psychiatriques et le groupe Information Asile. Il y a plusieurs mois d'existence de cette fédération, mais bon, il y a ensuite une émanation qui va se fonder dans un groupe qui s'appellera Marge, qui est déjà présent, mais qui est... Voilà, je continue. En fait, Marge se définit comme étant basée sur la fédération entre groupes autonomes, ayant les mêmes affinités, refusant tout leader, donc tout conflit de nature autoritaire. Et Marge décrit le fonctionnement des groupes qu'elle fédère comme les groupes naissent, se dissolvent pour se former à nouveau en fonction des désirs et objectifs spécifiques. Ce groupe va lutter pour son autonomie politique. Il y a à peu près, au départ, peut-être 70 militants qui vivent, certains dans un squat qui est au 341 rue des Pyrénées à Belleville, à Paris, dans le 20e. Il y a aussi un autre squat qui sera ouvert au 39 rue des Rigoles, avec des permanences tous les après-midi de je ne sais plus à quelle heure. Là.
Il y avait du monde.
Juste pour montrer qu'il y avait du monde et il y avait de la dynamique. Il y avait aussi ce qu'ils appelaient les assises d'été de Marche qui se passaient à Gourgas. C'était une maison achetée par, je crois que c'est Guattari.
Guattari,
voilà.
Ouais, ouais.
Et où tous les étés, ils se retrouvaient pour essayer de penser pendant plusieurs jours tous ensemble autour de certaines réflexions. Après, on va le voir dans notre petit panoramique des revues de Marge, mais ce sont des gens qui se réunissent autour de leur vécu, et donc il y a tout un tas de questionnements autour de la prostitution, autour de la prise de drogue. Je n'empiète pas sur la partie du poteau, mais par contre, voilà. Comment peut-être on peut rajouter quelque chose sur la...
Le truc assez rigolo avec Marche, c'est qu'effectivement, ils ont eu cette volonté, comme on essayait de dire un petit peu au début, de fédérer un paquet de minorités, de particularisme, on pourrait dire aujourd'hui, de gens qui étaient effectivement des reclus, et d'essayer de faire des choses ensemble, et de... C'est pour ça, là, quand tu racontes tous ces petits groupes qui étaient un petit peu comme ça, satellites, autour et à l'intérieur de ce groupe Marche, il y a cette volonté, à un moment donné, de constituer un objet commun, de lutte qui serait la revendication des marginaux avec un M majuscule, parce qu'en vrai il y a marginal, c'est, enfin, dans ce monde social hyper normé, la marginalité ça vient vite et ça vient par plein de morceaux, et du coup il y a ce truc très sympathique de leur part, je trouve, d'essayer de sortir des carcans genre révolutionnaires politiques traditionnels et de se dire en fait il est question de critiquer la société et sa normalité, il va falloir le prendre de l'extérieur, de, donc de toutes ces déviances en fait, et donc d'essayer de fédérer tout ça. Et je crois que le groupe Marge, il y a une volonté de cet ordre-là, qui je crois a réussi un certain temps. Après, c'est, j'imagine, en dents de scie, je pense qu'il faudra entendre les gens qui en parlaient à l'époque, quoi.
Ouais, justement, je propose de caler là un petit extrait que, qui me semblait pertinent, en rapport avec la société. Donc c'est un extrait d'un numéro de Marge, c'est le numéro 2, donc de 74, je crois. Et donc c'est extrait d'un texte écrit par Jean-Pierre Rodier, « Nous n'avons bâti notre cause sur rien d'autre que nous-mêmes ». Et donc cet extrait, je vous le commence. « Tout d'abord, il est évident, mais peut-être vaut-il mieux le dire, qu'il ne s'est jamais s'agit pour nous de construire une contre-société ou société parallèle, car dans cette société, la seule, celle qui nous opprime, nous y sommes entièrement, à tout instant, et ne pouvons d'aucune façon nous en abstraire. Il n'en reste pas moins que la vie... De même, être marginal ne veut pas dire être en dehors, comme s'il y avait un intérieur et un extérieur du corps social. Il n'en reste pas moins que vivre sa révolte ou être marginal, c'est effectuer des ruptures. Voilà, je trouve qu'ils ont aussi ce courage-là de dire « Ok, on se présente comme marginal, mais on est marginal à l'intérieur. Et comptez pas sur nous pour nous contenter de cette place des couloirs non dérangeants ou des trottoirs sur lesquels on compte pas les manifestants. On est dedans, et il va falloir compter avec la marge intérieure qui peut-être aussi... » Alors après, voilà, c'est les différentes prises de position dans Marge, qui peut-être aussi est à l'intérieur de chacun de vous, lecteur, et vous, tenant de la société propre. Et voilà,
Moi, je trouve ça, c'est hyper... Enfin, ce texte, il est hyper intéressant, parce qu'il dit quelque chose qui n'est plus dit aujourd'hui, enfin, ou alors assez peu, mais que ces gens, ils avaient les deux pieds dans la réalité, et ils pensaient pas d'alternative, ils pensaient la lutte dans ce monde-là, avec la réalité qui était leur premier donné. Et c'est aussi pour ça qu'ils étaient en rupture avec les partis politiques de l'époque, qui pensaient un monde meilleur, qui pensaient un monde autre, qui pensaient tout ça. Et eux, ils partaient de leur propre endroit, c'est-à-dire de leur propre exclusion, de leur propre marginalité, et ils voulaient lutter à partir de cet endroit-là. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est encore hyper utile de le dire.
Et alors peut-être on va continuer avec, avec cette petite récapitulative de qu'est-ce que c'est Marge, parce qu'il y a quand même un bon paquet de journaux. Bon, je vais essayer de les faire rapide. Alors, bon, on va commencer par le numéro 1, bien évidemment, que c'est, il est sorti en juin 1974, comme ce qu'on a entendu déjà parler, et s'intitule « Pourquoi Marge ?». Bien évidemment, quand on commence une aventure politique, on peut se demander pourquoi, tu vois. Ils ne sont pas tout à fait très à l'aise avec ces questions, mais ils essaient de donner la réponse, comme ce qu'on a dit déjà, c'est pour donner la parole aux marginaux, aux gens sans voix. Et comme ce que ça a été dit déjà aussi, c'est marqué dans les premiers journaux, et c'est marqué dans tous les journaux qu'il y a des permanences. Alors, ils avaient une énorme envie d'aller rencontrer les gens. Et quand même, pour aller tous les jours, voilà, j'imagine que c'était nombreux, comme c'était dit. Et déjà, depuis les débuts, mais bien évidemment, il avait des communiqués des tolards. Et aussi, une chose qui m'a assez bouleversé, c'est qu'il s'est écrit assez grand dans tous les revues, qu'il faisait un appel aux subscriptions des abonnements. Pour eux, l'autogestion, ça passait par ça aussi, tu vois. Et alors voilà, ça c'est juin 1974, très rapide après, parce qu'ils ont été très très efficaces et productives dans cette première année. Et c'est juillet-août 1974, ils continuent avec cette idée de se définir un peu. Et alors ils font une déclaration de fondation du mouvement. Et je trouve qu'il y a deux articles dedans qui sont assez intéressants, que c'est l'article sur la réflexion sur une pratique révolutionnaire. Ça c'est bien. Et aussi il y a un autre article que voilà, que pour l'époque peut-être c'était assez bouleversant, que c'était le féminisme ou la mort, et que c'était signé par mouvement écologie féminisme. Et voilà, ça comme ça me branche bien cette idée de mélanger les deux. Et après il continue avec sa productivité, septembre octobre 74, il sort le troisième numéro qui s'appelle Les voyous et la révolution. Comme on dit, c'est voilà, il avait des délinquants dedans. Et pour eux, bien évidemment, il y a un rapport avec la justice. Alors, un des premiers articles, il parle des pourritures de justice. Il explique assez bien. Et il commence déjà à tomber à ce moment-là, que 3-4 mois après les débuts, la répression sur eux. Alors, un article sur pression, répression sur marge. Il est assez petit, mais parce que je ne sais pas pourquoi, mais ils ne se donnaient pas beaucoup d'espace à tout ça. Et ce qui se passe, c'est qu'après quelques révoltes dans l'étole et quelques attentats contre les locaux d'administration pénitentiaire, mais bien évidemment, il y a eu un peu de répression par rapport à ces mouvements de marge. Alors, il y a deux personnes qui sont interpellées chez eux. Et voilà, c'est pour montrer comment ça montre rapide les, la répression. Mais voilà, où ils sont arrivés à les faire face apparemment. Après, le quatrième numéro, pour continuer avec la foulée, c'est novembre-décembre. Il ne s'arrête pas d'écrire, tu vois. Et ce quatrième numéro, il parle d'amour, de sexe et de comment faire tomber tous ces tabous. Et le cinquième numéro, c'est le mois d'après, bien évidemment, janvier 75. Et il est un peu plus court que d'habitude, et je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'était Noël, ou je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il est un peu plus court que d'habitude.
Ou bien et... il nous manque des pages.
Ou il manque des... Mais non, il ne manque pas des pages parce que c'est la dernière page, j'y ai des problèmes parce que c'est l'endroit où il marque les abonnements. Alors, je ne sais pas pourquoi il s'était court. Peut-être que c'était court des feuilles, je sais pas, on sait jamais. Et là-bas, dans l'intérieur, il y a deux articles qui m'ont bien interpellé. C'est de la logique comme méthode d'extermination. C'est pas parce que j'aime beaucoup l'irrationalisme, mais quand même, j'aime bien les gens qui foutent un peu la merde contre la logique. Et la deuxième article, c'est l'accumulation primitive de la colère. Après, je sais, voilà, il y a eu un moment qu'ils sont pas trop produits pendant quelques mois. Et on passe au numéro 6, que c'est avril mai 75. Et on commence dans les trucs qui sont vraiment intéressés à nous, que c'est les trucs qui parlent de la psychiatrie, parce qu'il faut se rappeler que Crio Cuervo, c'est une émission pour se libérer de la psychiatrie. Alors, c'est titulé « Pourriture de psychiatrie ». Et on aurait l'occasion de parler un peu plus sur les articles qui sont dedans, mais il y a des jours « Asile marginaux », »,« Thèse sur la psychiatrie », »,« De la psychiatrie en Chine ». Ça, c'est très intéressant, parce que c'était des gens voilà, qui c'est assez viscéral contre les partis et syndicats. Entre autres, bien évidemment, tous la clé des marxistes.
Et des maoïstes.
Et des maoïstes, ouais, voilà.
Qui existaient encore à l'époque.
Ah ouais, ouais, tout à fait. Et après, il y a un dernier article, c'est « La folie se porte bien ». Et voilà, à l'époque, apparemment, il se portait très bien. Et après, on passe aussi, c'est dans du temps août-septembre, et il commence Marge l'offensive. C'est incroyable. Au septième, c'est la rentrée, tu vois. Et ils disent Marge l'offensive. C'est la rentrée révolutionnaire. Et attention, parce que je vais lire un petit texte. Ah oui, je ne peux pas m'empêcher de lire. Et voilà, je vais vous lire un petit texte. Comment ça s'est fini? Alors, la rentrée impossible pour les capitales sera pour nous la rentrée de l'offensive. Marge sera au cours de cette année sur tous les fronts de lutte. Prison, asile, usine, école, armée, etc. C'est pourquoi nous lançons un appel à tous les révolutionnaires pour qu'ils réunissent dans un front le plus large possible afin d'intensifier les luttes, cette fois d'en finir. Voilà, bon, c'est assez clair. C'était assez motivé. Ça y est, c'est septembre. Et voilà, la rentrée, il faut finir avec tout ça. Et voilà, après c'est octobre-novembre 75. Et bien évidemment, ces gens-là, ils étaient assez sensibles à ce qui s'est passé en Espagne. Franco, il venait d'être mort en novembre. Et ces gens, ils étaient assez sensibles. Ils s'appellent Ni Fascisme, Ni Front Populaire. Voilà, c'est vrai que c'est, pour moi, c'est un journal assez... voilà, qui me parle assez, je ne comprends pas pourquoi. Et ça me plaît bien qu'ils critiquent aussi les Fronts Populaires. Mais dans l'intérieur du journal, c'est vrai qu'ils font pas, ils développent pas beaucoup cette pensée, pourquoi il faut critiquer les Fronts Populaires. J'imagine que pour eux, ça va être quelque chose d'évident. Alors, ce qu'ils font surtout, c'est critiquer la santé, ce que ça me plaît bien aussi. Surtout par rapport à tous les compromis qui sont faits pendant la révolution, parce qu'il parle pas des 75 qu'on marque les fronts, fin qu'il est mort, sinon parle plutôt du 36. Alors il critique à la CNT pour les rôles contre-révolutionnaires que certains de ses dirigeants y sont eus. Et voilà, après tout ça sur l'Espagne, il passe au numéro 9, que c'est janvier 75. Et bien évidemment, on commence à parler des délinquances, délinquances politiques. Il y a deux articles qui parlent de la révolte à la révolution. Et délinquants conscients. C'est vrai qu'eux, ils parlent des délinquants, mais pour eux, c'est pas une solution en soi-même, être un délinquant. En tout cas, comme sujet révolutionnaire, pour eux, c'est pas assez être un délinquant. Sinon, il faut avoir une conscience des sujets révolutionnaires. Et après mai, juin 76, je sais pas ce qui s'est passé pendant tous ces mois-là, mais je crois que, bon, je vais vous lire l'article, ça s'appelle Défense et révolte. Voilà, c'est le numéro, Défense et révolte. Ils sont passés déjà 4-5 mois sans pas trop écrire.
Il y a eu une livraison ?
Il y a eu une livraison, peut-être. Je voulais pas trop faire la blague, mais voilà, ça tombait. Et ils sont aussi vers une défense consciente. Et voilà. Après, octobre, novembre, et encore quelques mois d'après, ils commencent à parler d'homosexualité et marginalité. Voilà, on n'avait pas trop encore parlé de ça, mais voilà. C'est dans les numéros 11 qu'ils commencent à parler de ça. Ils parlent d'homosexualité en rupture, comment sortir de la ghetto, et homosexualité et code pénal. Parce qu'apparemment, à cette époque-là, voilà, tu pourrais te faire choper pour une petite connerie comme ça. Après, les numéros 12, je ne sais pas si ils n'existaient pas, ou nous, on ne l'avons pas, je ne sais pas pourquoi, mais il y a on ne connaît pas qu'est-ce qu'il y a dans le numéro 12. Mais on passe direct au numéro 13, qui c'est un des meilleurs numéros pour moi aussi, c'est novembre-décembre 77, qui s'appelle Terrorisme et quotidien, marginalité des femmes. C'est vrai que la plupart des réflexions qu'ils font à cette époque-là, c'est assez incroyable comme ils sont d'actualité. Et pour finir, voilà, presque un an et demi après, il sort le dernier numéro, en mai 1979, qui s'appelle Musique et mouvement. Et voilà, dans l'intérieur, c'est un numéro un peu plus léger. Et peut-être que pour finir, il voulait faire un peu un truc avec la musique. Et voilà.
C'est chouette qu'ils se soient créé cet outil pour retranscrire toutes les grandes questions que leur posait la vie quotidienne et comment l'exprimer et réfléchir à une vision révolutionnaire de tout ça.
La musique, parlons-en. Je vous lance le morceau. J'ai cherché du coup de la musique d'époque, et de l'époque en France, avec des textes qui parlent aux contemporains. Il y avait Higelin, par exemple, qui sortait son premier album, avec, je crois, le premier album, je ne suis pas culte d'Higelin, mais avec deux ou trois autres gars. Voilà, ça me semble tout à fait dans le sujet.
Planté là par hasard un beau soir de dèche. Le blues au cul, le cœur gros et le gosier à sec. Couché sur le trottoir, un paquet de pauvres mecs et une super panthère qui te propose son beefsteak. Dans le boxon, c'est de se gaufrer les frangines. Le poing dans la vitrine et le doigt sur le flipper. Dans ce passe-tringue d'enfer, t'es comme un rat dans l'usine. Y'a le club des pensionnaires pour l'entretien des machines. Stock de pneus. Un trio de ringards massacre un rock de banlieue. Ils s'arrachent le mégot comme on défonce un klaxon. C'est le genre de tango qui fait bander la patronne. De ce boxon, je tenais plus de pouce sur mes cannes. Blague, je me farcis de ploucs qui frimaient sur leurs bécanes. C'est plus de quoi j'avais l'air pour qu'ils pensent à me braquer. Pas le temps de revoir ma mère que déjà j'étais retourné.
Et du coup, comment on peut enchaîner sans vous lire quelques passages de la revue Marge sur... alors, il y a trois articles. La folie se porte bien, nous n'avons pas bâti notre cause sur rien d'autre que nous-mêmes ou le désir de psychiatrie. Et les textes que je vais vous lire font partie de ces articles. Je peux parler de cette attitude qui consiste à parler sur la folie, en la trouvant intéressante, excitante et belle, pour mieux oublier sa parole et ce qu'elle engage. Elle est devenue sujet de thèse, objet d'études littéraires, critères esthétiques. Certains mêmes, qui ne craignent pas de faire l'apologie de la folie, prennent toutes leurs précautions de confort intellectuel pour ne pas y sombrer. Ce qui n'est pour eux que le spectacle de la folie illumine la pauvreté de leur horizon. On veut bien tout admettre de la folie, sauf sa contagion, sauf qu'elle puisse transformer. Du coup, j'ai essayé moi un peu de la réfléchir à ce que ça pouvait engager la question du mot « autonomie désirante », quand on sait que l'autogestion collective, c'est pas de la tarte. Comment on questionne pour nous tous une certaine autogestion collective de toutes nos folies, de ce qu'on en fait, comment on la vit malgré les dégâts et les conséquences pour nous, pour nos proches, avec la lucidité de ce qu'elle nous fait traverser dans ce monde, et comment elle ne devient pas qu'une fatalité, sinon c'est les autres qui ont gagné et on est des patients, on n'est plus des sujets. Alors un autre petit article, je ne sais pas ce qu'est la folie, sinon justement cette angoisse, ce décrochage, sinon qu'elle n'est pas de l'autre côté, mais bien de ce côté-ci où nous sommes, à la limite de nos attitudes, de nos désirs, qu'il n'y a pas de rupture entre ma possible folie, ma proche angoisse et ma révolte active. Qu'il n'y a que cet effacement des repères, ces paysages nouveaux qui montent, là où justement se décomposent les valeurs et les formes, où éclate ce regard sûr. Comment est-ce qu'on peut penser une autonomie et une gestion de notre folie, avec tout ce qu'elle a d'irraisonné, d'imprévisible, de délirant, et tout ce qu'elle fait porter au collectif en termes d'autogestion, et comment on se parle autour de ces questions et de ces différences? La vérité, c'est qu'on appelle la folie maladie mentale, parce que la folie fait peur, qu'elle dérange, qu'elle décode et court-circuite tout le système. C'est ça l'investissement politique inconscient ou conscient du champ social. Ce que nous disons, c'est que la folie est politique, que ses origines sont politiques, et que comme la délinquance, elle est une fantastique révolte de l'homme contre le pouvoir de cette société de misère. Que tous les malades mentaux sont des prisonniers politiques, et que c'est pour des raisons fondamentalement politiques qu'on les enferme. Que la folie, ça existe bel et bien, et que ça fonctionne très bien, mais que ça n'a rien à voir avec une maladie, et qu'il s'agit de toute autre chose que ce que les spécialistes en question voudraient bien y faire voir. Comment on s'engage avec cette folie? Comment on essaye, avec la transformation qu'elle nous fait subir, de devenir acteur de tout ça? Et après, je vais finir par vous lire encore plusieurs articles que j'ai trouvés assez chouettes. Nous avons tout à faire pour que ce qui agite la folie sorte des lieux où on normalise pour se répandre dans la vie. Entre autres, se débarrasser de l'esthétisme, qui au lieu d'enfermer dans les asiles, enferme dans des musées ou dans des marchandises. Mais si la deuxième mort des fous, c'est de les enfermer dans leurs éventuelles œuvres, un jour avec tant d'autres, la peinture de Van Gogh armée de fièvre et de bonne santé reviendra pour jeter en l'air la poussière d'un monde en cage que son cœur ne pouvait plus supporter. On peut lire aussi « Si nous ne supportons pas les limites et l'aliénation sociale, nous nous insurgeons avec encore plus de vigueur contre la pratique, qui consiste à enfermer encore plus précisément ceux qui se sont insurgés d'une manière ou d'une autre contre la carcéralité de la vie quotidienne. La prison et l'asile sont ces dernières armes de la normalité, cette volonté de réduire coûte que coûte les réfractaires, de détruire les individus différents. » Et enfin, un dernier. Nous partons d'un grand refus, celui d'être réduit, digéré par une machine économique et idéologique avec laquelle nous n'avons rien à voir. Nous refusons la dictature de l'État, d'une catégorie sociale, de la nation. Nous refusons la dictature de l'école, de l'armée, de la famille, de l'idéologie. Nous refusons la dictature du prétendu intérêt général. Nous refusons l'esclavage du travail. Nous sommes ceux qui ne nous confondront jamais avec une fonction, un rôle social. Nous restons farouchement inutiles. La tentative difficile, parfois misérable aussi, de vivre ce refus, d'une manière pratique, fait de nous des marginaux. Et marginaux, nous le sommes doublement, de fait en désertant ou sabotant notre devoir social, et de droit, en étant exclus, en tant que paria, individu dangereux, irresponsable, par ceux qui continuent de l'accomplir. Cette vie, qui est d'abord une vie de réfractaire, ne va pas sans un certain état de fureur. Cette marginalité n'est pas un lieu théorique, elle n'est pas non plus codifiable. Elle passe partout à travers le corps social. En outre, ce n'est pas d'une revendication qu'il s'agit, mais bien d'une marginalité de fait. Ce que nous exigeons à travers elle n'est rien d'autre que le droit à la différence. Voilà pour essayer de choper des bouts de texte et pour vous donner envie de lire. Alors on s'est vraiment posé une question sur la disponibilité des journaux Marge.
Mais ouais, parce que Marche est un journal qui est quand même assez compliqué à trouver, mais peut-être revenir deux minutes un petit peu sur ce truc des différents groupes marginaux, parce que marge, ça s'écrit sans S dans le journal, mais que en réalité c'est quand même avec un S. On doit le penser, qu'on peut le penser quand on regarde un petit peu les journaux. Et il y a quelque chose qui est un processus historique un petit peu, parce que à l'époque c'était déjà subversif de revendiquer des droits en tant que homosexuel, psychiatrisé, femme, noire à d'autres époques, à d'autres moments, tolard, toxico, prostituée, bon voilà, la liste est longue. Et la tentative de marge, c'est un courant politique quand même, c'est d'essayer de faire comprendre qu'il y a moyen de se constituer en tant que sujet révolutionnaire quand on est quelqu'un qui vit la répression par rapport à l'identité sociale qu'on a. Et c'est quelque chose d'assez intéressant, parce qu'à l'époque c'était très subversif, c'était même très révolutionnaire et très novateur. Du coup on peut tirer un peu le truc jusqu'à nous aujourd'hui, à se demander dans quelle mesure aujourd'hui c'est encore porteur de faire ça. Est-ce qu'on a encore besoin de se revendiquer psychiatrisé, besoin de se revendiquer homosexuel, et de dire qu'on a des droits et des choses à dire par rapport à ça? Et je pense que oui, par ailleurs, il y a toujours moyen et il y a toujours besoin de faire ça. Mais ce qui est intéressant, je pense, à essayer de continuer à tirer là-dedans, c'est de se dire que c'est l'État qui crée ces catégories, et c'est le pouvoir qui crée ces espèces d'endroits très parcellisés dans le monde social. Et dans le projet de marge, il y avait en tout cas l'idée d'essayer de regrouper tout ça dans un seul endroit, de dire c'est la marginalité. Et ça, c'est quelque chose qui doit toujours nous habiter, je pense, essayer de casser toutes ces catégories-là, et d'essayer de faire en sorte que le fou ne soit pas que fou, que l'homosexuel ne soit pas qu'homosexuel, et d'essayer nous-mêmes, dans nos projections politiques, de dépasser ces trucs-là, pour pouvoir aussi rejoindre d'autres luttes. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque à plein d'endroits, qui est toujours très très compliqué à faire. Et pour ça, il faut revenir un petit peu, je pense, sur ce terme d'autonomie, parce qu'il disait « autonomie désirante ». C'est quoi l'autonomie? L'autonomie, c'est quand même à la base des syndicats ouvriers qui voulaient pas être dans les appareils syndicaux et qui se sont dit nous on va faire des syndicats autonomes. Et l'autonomie c'était ça, c'était sortir des cadres et sortir des catégories pour essayer à un moment donné d'avoir une parole libre et pouvoir s'approprier un discours politique qui était pas un discours préconstruit et pas un discours idéologisé. Et du coup je pense que ce propos il est toujours hyper actuel, et on a du mal à voir à quels endroits ça se produit ça. Parce qu'on a, voilà, nous-mêmes on fait un journal, c'est sans remède, c'est sur la psychiatrie. Alors on essaye de l'ouvrir, on essaye de dire d'autres choses, d'autres endroits, d'autres mondes, mais c'est toujours très compliqué. Et je trouve que
c'est peut-être facilité par le fait que en psychiatrie se retrouvent et se croisent du fait de leur singularité les tox, les putes, les immigrés, les femmes, et que c'est peut-être justement le lieu ou l'institution dans lequel cette confrontation et cette rencontre, elles sont possibles, quoi.
Ben, je pense qu'effectivement, c'est pour ça que la psychiatrie, c'est un des objets qui met vachement au jour ce truc-là. Parce qu'il y a, effectivement, quand on va dans une psychiatrie, on se rend compte qu'il y a une multiplicité déjà de classes sociales, par exemple. Il n'y a pas du tout, enfin, il y a quand même une majorité de pauvres dans les HP, mais il n'y a pas que des pauvres quand même. Il y a des femmes, il y a des hommes, ouais, c'est hyper mélangé. Et t'as effectivement des tox, des alcoolos, des gens qui sont post-dépressifs parce que vie de merde, et t'as des gens qui ont trop bossé, donc qui font une dépression. T'as un truc très très mélangé. Je trouve que c'est pour ça que la psychiatrie est un révélateur de ce truc-là. De dire où va la marge, où va la déviance sociale aujourd'hui dans notre monde, elle échoue. D'abord en psychiatrie, pourquoi pas en prison, et elle passe par la case justice. Et effectivement, il y a quelque chose qui... c'est pour ça que c'est un objet assez signifiant. Mais il me semble quand même qu'on mériterait à essayer de critiquer aussi ces catégories, et à dire, par exemple, moi, personnellement, en tout cas, la catégorie de fou, par exemple, me pose problème. J'ai pas envie que quelqu'un m'identifie comme fou, et j'ai pas envie de coller cette identité à quelqu'un non plus. C'est quand même une identité médicale, c'est le pouvoir qui d'abord commence à parler de fou. L'homosexualité, je sais pas pourquoi une personne devrait être enfermée dans l'identité sexuelle. En vrai, il y a quand même un truc très bizarre là-dedans. Et j'ai pas moi-même envie de me dire je suis hétéro, je suis homo. Enfin, j'ai un truc.
Ouais, après, je pense que on arrive sur des terrains qui prêtent à débat. Parce que par exemple, moi j'aurais des trucs à dire par rapport à ça.
Je sais.
L'individualité elle est singulière, le véhicule est singulier. Et s'il y a besoin de revendiquer, que ça soit.
On part d'abord de l'endroit où on est.
Ouais, voilà.
Mais il y a un dépassement qui doit.
Oui. Qui est souhaitable. Après, est-ce que c'est dans la dialectique de l'individu, c'est pas forcément donné.
Ouais. Moi, je suis complètement d'accord avec tous les deux parce que je suis conciliant, tu vois. Mais, non, je crois que les prismes de la domination, on les ressent en tant qu'individu et on a une identité et ça, en soi-même, je trouve que c'est quelque chose de positif, même si c'est des identités qui ont été données. On peut se réapproprier ces identités pour lutter contre notre oppression. Mais après, je suis d'accord que pour finir avec cette oppression, il faut qu'il y ait un désir collectif. Par exemple, entre les fous, entre les immigrés, il faut que les immigrés se mettent d'accord, les fous se mettent d'accord. Mais on ne va pas finir avec la société qui nous opprime si on se met tous les immigrés d'un côté et tous les fous de l'autre. Alors c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un désir, en tout cas pour moi, il faut qu'il y ait un désir collectif pour que tous les gens qui se font dominer finissent avec l'État et les capitales et la domination en général.
C'est alors, ça qui est très intéressant dans Marge. Il y a ce projet-là, en tout cas.
Très exactement. Numéro 6 de Marge, pourriture de psychiatrie. Donc, 10 thèses sur la psychiatrie. Et au point numéro 8, je vous lis. Nous l'avons vu, l'État cherche à transplanter la vérole asilaire dans toute la société. Ça, c'est en lien avec la psychiatrisation de la société, du conflit, etc. Nous devons strictement faire le contraire. Faire passer la rue, le désordre, la révolution à l'intérieur de l'asile. Faire passer notre contagion à l'intérieur du lieu de décontamination. Et donc, c'est un peu une transition pour vous faire part de ce qui, moi, m'a semblé intéressant, même si c'est encore une fois moi qui me coltine la partie la plus législative, etc. C'est pour évoquer la charte des internés. Donc, qui a été publié en 75 dans Marge et aussi dans Psychiatrisé en lutte, qui était le journal du GIA. 75, c'est un peu une année particulière parce qu'il y a aussi la constitution du réseau européen alternatif à la psychiatrie à Bruxelles. Ça, on en parlera peut-être une autre fois, mais pas cette fois-là, on n'a pas le temps. Et du coup, charte des internés, plusieurs collectifs, ça je vais quand même vous en toucher un mot, parce que Marge n'est pas tout seul à l'époque. Et donc, on a vu, c'était un peu une agrégation d'individus qui côtoyaient diverses luttes. Et dans les signataires de la charte des internés, on retrouve le mouvement Marge, la revue et le groupe Garde-Fous, l'ARLIP, le comité de lutte des handicapés et le groupe Information Asile. Je vais pas vous détailler l'histoire de chacun, mais c'est quand même des points pas tout à fait confortables de rencontre, puisque là-dedans, on retrouve dans Garde-Fous des soignants, des infirmiers. Au départ, Garde-Fous, c'était quand même créé par des internes en psychiatrie des internes en psychiatrie qui sont petit à petit débinés quand la critique de la psychiatrie en soi était devenue trop virulente au sein du groupe. Mais bon, il y a des soignants, il y a des juristes, il y a des fadas. Et les handicapés, on avait le projet de faire le sujet d'une autre émission là-dessus, parce que 75, c'est aussi la première loi un peu où on arrête de parler des handicapés comme des débiles et des gens presque on arrête, c'est pas tout à fait, mais pour revendiquer un peu les droits des personnes handicapées, qui avaient aussi leur propre journal dans ce comité de lutte des handicapés. Il y avait Handicapés Méchants. Voilà, tous ces groupes-là que je vous ai cités.
Très drôle, Handicapé Méchant.
Ouais, bien, bien les dents qui couinent, parce que eux, quand même, une de leurs luttes, c'était de s'opposer aux quêtes annuelles par l'Association des Paralysés de France, qui allait sur la voie publique réclamer des petits deniers pour ces gentils handicapés, etc., le côté misérabiliste de la charité chrétienne. Eux étaient complètement opposés à ça, et étaient plutôt des handicapés mordants et méchants, et qu'ils revendiquaient comme espace de liberté individuelle aussi. C'est pas parce qu'ils sont en fauteuil qu'ils peuvent pas être cruels comme les autres. Voilà. Pour faire vite. Et après, juste cette charte des internés. Bon, je vais pas vous en faire le détail non plus. C'est une double page dans Marge, donc c'est quand même assez vaste. Donc, ils revendiquent l'abrogation de certaines lois, donc sur les régimes d'hospitalisation, sur les lois sur la toxicomanie ou les alcooliques. Mais ce qui me semble intéressant peut-être pour aborder ce texte, c'est de voir quels sont les points qui, depuis 1975, n'ont toujours pas été acquis. Sachant que, par exemple, sur les luttes actuelles par rapport à la nouvelle loi, avec André Bitton, du CRPA, qui est beaucoup sur le sujet de la jurisprudence, souvent dans des conférences de presse, ils revendiquent la pertinence et l'actualité de cette charte de 75. Voilà. Et donc, comme points, par exemple, qui sont peu portés à l'heure actuelle encore, il y avait tout cet aspect de liberté à l'intérieur de l'asile. Donc il y avait liberté de se syndiquer. Bon, à l'époque, il y avait des syndicats qui étaient peut-être un peu plus... avec garde-fous, notamment, ou... Bon, c'était... Voilà. Bref, des moyens de s'organiser... C'était pas tant de se syndiquer, mais de s'organiser de façon autonome à l'intérieur de l'asile. Ça veut... S'organiser, ça voulait dire aussi qu'ils revendiquaient une salle à disposition. Faut imaginer aujourd'hui, hein, une salle dans l'HP.
Ouverte à l'extérieur, c'est ça ?
Voilà, ouverte à l'extérieur pour que des groupes extérieurs puissent venir... mener un peu la comtesse ou ouvrir des horizons lointains aux personnes qui sont hospitalisées. Ce qui est loin...
Ce qui a essayé de se faire un peu à l'atelier du non-fer, mais qui n'a pas forcément duré...
Ouais, puis est-ce que c'était vraiment des groupes extérieurs ou non-fer ?
C'était ouvert à l'extérieur, en tout cas, ouais.
Ouais.
C'était au milieu de l'hôpital et tu pouvais y rentrer de l'extérieur sans demander rien à personne.
Mm-mm. Il y a ça, revendication de la liberté de la presse. Je pense que sans remède, vous auriez des choses à dire sur le sujet. Il y a encore quoi ? Liberté de circulation dans l'établissement, non à la censure du courrier et du téléphone. Revendique aussi, après, plus sur l'aspect la psychiatrie qui se veut thérapeutique, le droit de regard sur les traitements, le droit de refuser des traitements. Après, il y a des points où il y a eu des avancées depuis, notamment avec cette loi de 75, après la loi de 2005, sur le droit d'avoir ce qu'ils appelaient une indemnité de chômage. Parce qu'à l'époque, si tu passais quelques années à l'HP, ou tu te faisais exploiter gentiment en ergothérapie avec un salaire de... des défraiements dont une partie était... soumise au libre arbitre du médecin. Donc bref, c'était du travail forcé quasi, hein. l'ergothérapie dans l'hosto, où tu faisais le ménage, mais petit à petit, il y a aussi des entreprises qui venaient s'installer et qui te proposaient des petites activités qu'on retrouve aujourd'hui dans les ESAT, quoi. Voilà. Donc il y a une pérennité de ça, dont on parlera encore une fois, je pense, une autre fois. Voilà, cette charte très intéressante. Si vous voulez la réclamer, on peut vous l'envoyer. Je crois que je vais pas être beaucoup plus longue là-dessus parce que mon envie quand même c'était de pouvoir vous passer un petit morceau de Zik avant qu'on m'assassine et après vous lire ce petit texte de fin d'année
pour le Père Noël.
Voilà, allez, un peu de son.
Alors voilà, encore cisma, parce que voilà, comme c'est des marginaux qui vont foutre la cisma partout. Voilà, ici c'est le morceau qui s'appelle Vertederos de lo social, c'est ce que ça veut dire en français, des déchetteries du social. Et voilà, c'est un groupe qui cartonne, actuel. C'est pas des 74, même si on pourrait dire, mais voilà, c'est maintenant.
Du coup, ouais, voilà, j'avais envie de vous lire ce texte issu du numéro 2, donc de 74. C'est une personne qui, à l'époque, est hospitalisée à Maison Blanche, qui écrit, voilà. C'est un texte qui est destiné à être lu en public, mais bon, ben voilà, oui, on est en public. Donc, je vous en lis un extrait, qui est quand même un peu long. Préparez-vous, hop, hop. Je me rappelle ma veillée de Noël 1968. Ce jour-là, je quitte dans l'après-midi l'hôpital dermatologique Fournier à Nancy pour rentrer par le train à Vittel, où je travaille à la Société des Eaux, après un mois d'hospitalisation. Lorsque j'ai payé mon billet, il me reste 40 centimes en poche. Dans le train, je rencontre mon frère Jean-Luc, qui vient passer à Vittel les fêtes de fin d'année chez ma sœur Sylvie. Tous deux me considèrent comme un dégénéré depuis mes séjours en psychiatrie de 1966 et 1967, et il n'est pas question que je me joigne à eux pour le réveillon. À l'arrivée à Vittel, mon frère n'ose pas m'éviter et me paie un demi. Je m'aperçois lorsqu'il règle qu'il a plus de 1000 francs actuels sur lui. Dans la rue, surmontant ma gêne, je lui demande de me prêter 10 francs. Il louvoie, puis me dit carrément non, et s'en va. Totalement désemparé par ce refus, je vais jusqu'à un bar et je m'assieds à une table, regardant à travers la baie vitrée la fenêtre illuminée du logement de ma sœur, où la soirée semble bien commencer. Ma sœur loge en effet à un jet de pierre du bar, où je suis, de l'autre côté d'un petit ruisseau. Je suis envahi par l'envie de plus en plus furieuse d'aller tout casser dans cet univers douillet où je n'ai pas ma place. Soudain, une main sur mon épaule, c'est Bel Arbi, un ami algérien qui vient d'entrer. Il s'inquiète de ma fébrilité, me réconforte par des mots simples, me paie un demi. D'autres camarades de travail, arabes, espagnols, italiens, arrivent à leur tour. Et quelque chose de doux, d'extraordinaire se produit. Tous ces étrangers, certains me sont même inconnus, tous ces gens que d'autres veulent considérer comme des parias indésirables se réunissent, se cotisent, quoique leurs ressources soient modestes, et me paient le repas, le bal, la boisson, les cigarettes, avec une gentillesse, une chaleur humaine, comme en France jusqu'alors je n'en avais pas connu. J'ai passé avec eux le plus beau Noël de ma vie, lorsque j'étais sur le point de me laisser aller totalement au désespoir. Que ce témoignage soit une petite part de l'immense dette que je leur dois. Ils m'ont permis de continuer à croire à la valeur irremplaçable du genre humain. Que toute forme de racisme envers quelque groupe humain que ce soit disparaisse à tout jamais sera mon souhait et ma conclusion. François Lièvre.
Merci la cohésion sociale à Noël.
Dans un bar surtout.
Dans un bar.
Bon, ben voilà, finalement, on a encore le temps de tirer des conclusions de tout ça. Je sais pas.
Dire trois mots sur la diffusion de Marge aujourd'hui.
Allez, par exemple.
Parce que, bon, personnellement, moi, j'ai pas mal galéré à trouver les numéros de Marge. Et je les ai pas tous trouvés. Et je crois qu'il était question, avec quelques personnes ici présentes, là, d'essayer de, dans un projet plus lointain, de rééditer les numéros de Marge. Bon, ça, c'est un gros projet. Mais dans un premier temps, au moins, de les rendre accessibles, peut-être déjà sur Internet. Et on peut aussi saluer la bonne volonté des anciens de Marge qui sont hyper chauds pour qu'on fasse ça et qui évidemment disent que c'est complètement libre de droit et qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et c'est chouette. Et donc, bah voilà, le travail va être essayer de numériser tous ces numéros, d'essayer de faire un truc un peu propre et de pouvoir le mettre en ligne. Et pour une réédition future, peut-être il y aura des soirées de soutien, concerts de soutien, tout ça.
Peut-être avec Cisma, on ne sait jamais.
Écoute.
On est en train de construire un projet.
Ouais, juste pour dire aussi, comme nouveauté, c'est un petit peu en lien. On a eu à la maison des gens qui étaient passés à la Borie et Marivielle, des gens des Cévennes, et du coup on a profité pour faire des entretiens avec eux. Donc c'est aussi une prochaine émission. Voilà, une petite annonce comme ça.
Tout à fait. Ouais. Et aussi un lien avec l'émission qu'on vient de faire aujourd'hui. La prochaine émission, il faut dire que ça sera avec une interview de Dietmar. Et voilà, c'est assez intéressant parce que c'est quelqu'un qui, voilà, c'est quelqu'un qui était au noyau de cette publication et qu'on va voir qu'est-ce que son point de vue après 30 ans, toi. Mm-hmm. Et voilà, c'est assez intéressant de voir les reculs qu'il a pris. Ouais. J'espère qu'il va nous écouter.
Il faudrait qu'on en informe.
Ouais.
Et après, oui, c'est lui qui signait beaucoup d'éditos de marge qu'on a peu exploité, mais mine de rien, dans ses éditos, c'était une bonne lecture pour voir comment marge dans sa construction, dans cette dynamique évolue. Et voir, puisque Dietmar au début, au premier numéro, appelle à fond sur créer des mouvements marge un peu partout, etc. Et on voit au fil d'un numéro qu'effectivement, des groupes s'étoffent, mais que ça se fait pas sans conflit et sans impasse stratégique.
Ah ouais, des conflits il y a eu, et nous on l'a interpellé plusieurs fois, et il va nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'était les conflits, surtout avec les marxistes.
Ok, on vous remercie.
Et la rediffusion de l'émission dans 15 jours, mercredi à 20h, je ne sais pas trop quel jour ça tombe, mais bientôt en janvier avec la nouvelle émission sur Marge.
Salut.
Ciao.
Ciao.
Crio cuervos.
Crio cuervos.
¡Crío cuervos!
Thank you.